Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du salon BFM Patrimoine, troisième édition de ce rendez-vous en direct du Carrousel du Louvre à Paris. Beaucoup d'invités ce matin, actualité, on va le voir très très chargé. On va parler bien sûr placement, on va parler de différents supports, on parlera immobilier, on parlera SCPI, on va parler évidemment des conseillers en gestion de patrimoine avec nos différents invités. Mais d'abord, un premier coup d'œil à la Bourse de Paris, on va retrouver Antoine Larigauderie au siège d'Euronext. Antoine, bonjour. Le CAC, pour l'instant,
bonjour, est Stéphane.
En progression de 0,3%.
Oui, on tient un petit rebond après quand même 5 séances de baisse d'affilée. Alors c'est vrai sur des petits écarts de points, mais quand même on sentait une tendance un petit peu plus fébrile, notamment sur les marchés de taux, des inquiétudes concernant le climat sanitaire en Europe et des investisseurs un petit peu plus prudents. Lundi, c'était aussi une consolidation saine pour un CAC 40 qui a grimpé en ligne droite depuis un peu plus d'un mois. Donc on a repris du souffle et là le CAC 40 avance. Alors on sent que le rebond est quand même timide, hein, plus 0,31% à 7064. Il n'y a pas beaucoup de volume non plus, on n'est même pas à 300 millions d'euros d'actions négociées encore sur le CAC 40, ben oui, parce que c'est Thanksgiving du côté des États-Unis, donc pas d'investisseurs américains. Wall Street sera fermée cet après-midi et il n'y aura qu'une demi-séance demain, donc il y a pas mal de gens qui ne sont pas sur leur table de marché sans doute, et un petit déficit de volume pour le CAC 40. Ça se passe un petit peu mieux du côté de l'Eurostox 50 qui gagne en ce moment 0,48%, et le DAX à Francfort aussi qui surperforme le CAC 40 et qui gagne 0,38%. Le contexte de marché, il est aussi dicté par, je vous le disais, les taux d'intérêt sur le marché obligataire. Alors, légère détente ce matin, notamment sur la dette française 10 ans à 0,12% et moins 0,23% pour la dette allemande. Autrement, on attend pas mal de choses à la mi-journée en provenance de la BCE. Il y aura le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire, celui d'octobre, qui sera publié à 13h30. Et puis, un petit peu plus tard dans l'après-midi, il y a Christine Lagarde qui doit s'exprimer devant la conférence juridique de la BCE. Et à cette occasion, on pourrait assister à nouveau à la publication du petit élément de langage du moment. Prématuré, toute action sur les taux serait prématurée l'année prochaine. Donc peut-être de quoi prévoir une détente supérieure sur les taux d'intérêt. À noter l'euro-dollar qui est toujours sur le fil d'un 12. Là, on remonte un petit peu à un 12,23, mais on sent qu'il y a véritablement des points de fragilité et qu'on pourrait passer sous cette ligne de crête. Du côté des valeurs, la bonne nouvelle et le secteur du jour, c'est celui des vins et spiritueux, avec les très bons résultats de Rémy Cointreau et même un relèvement des prévisions pour l'exercice. Rémy Cointreau qui gagne 10,3% à 206 et dans le sillage, on a Pernod Ricard qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 1,97, 212 euros. Sinon, on reprend du risque sur les valeurs de croissance. On a pu le voir hier avec la clôture de Wall Street, avec une clôture partagée entre le Dow Jones et le Nasdaq. Le Nasdaq qui a repris un petit peu d'oxygène et donc ça permet à Dassault Systèmes de gagner 1,7% à 52,98. Capgemini plus 1,38 à 206,20 et Téléperformance plus 1,28, 356,20. Les valeurs de croissance aussi à Paris, c'est le luxe. Et on a des titres qui en profite. L'Oréal plus 0,8%, 415,95 €. À noter à la baisse des valeurs plutôt défensives, on a Carrefour moins 0,9% à 15,65 €, on a Safran moins 0,8% à 111,52 €. Puis le secteur bancaire, du fait de cette petite détente sur le marché obligataire, le Crédit Agricole par exemple qui perd 0,85%, on est à 12,56 €. Le CAC plus 0,32, 7064, marché calme, l'euro 1,1224 $, Stéphane.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie au siège d'Euronext à La Défense, près de Paris.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et donc pendant ces deux heures, on va vous faire vivre le salon BFM Patrimoine, troisième édition au Carrousel du Louvre. On va retrouver Étienne Brack dans les allées du salon. Étienne, bonjour, vous êtes avec votre premier invité, Christophe de Courtivron, directeur des partenariats CGP Perial Asset Management. Étienne.
Oui, c'est ça, beaucoup de monde, hein, comme vous pouvez le voir ici pour cette troisième édition du Sommet Patrimoine. Et donc avec moi, vous l'avez dit, Christophe de Courtivron. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Perial Asset Management, là on est dans l'immobilier, pure player de l'immobilier aujourd'hui.
Hein. Exactement, depuis 1966, une société indépendante, capitaux familiaux, qui se développe sur les sujets de SCPI et de SCI immobilière.
Alors, les SCI, les SCPI, ils ont pris un tournant ces dernières années, mais vous l'avez pris il y a un bout de temps également. C'est tout ce qui concerne les critères environnementaux. Alors, on les voit de plus en plus sur le marché actions, mais ça se voit de plus en plus également sur l'immobilier.
Nous avons lancé notre SCPI PFO2 en 2009. C'est vrai que c'est un vrai succès aujourd'hui. Le décret tertiaire est rentré en application, s'applique à tous dorénavant. Il faut faire des efforts sur les consommations, notamment énergétiques, faire attention à son empreinte carbone. L'immobilier contribue malheureusement beaucoup à cela, et c'est important de maîtriser ces sujets pour que le développement soit durable et que les performances financières soient stables dans le temps. Et c'est les performances extra-financières qui feront les performances financières de demain. On en est convaincu chez Parial Asset Management.
Oui, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de biens, s'ils ne répondent pas à ces critères, qui seront peut-être aussi délaissés dans le futur. Ça, vous le voyez ces dernières semaines, ces derniers mois?
Il y a un risque. C'est vrai que sur une SCPI comme PFO2, nous vendons régulièrement des immeubles. Nous faisons des travaux sur des immeubles qui peuvent être récents, comme un immeuble comme le siège d'Orange de 2006, qui bénéficie de travaux pour être en permanence sur les dernières normes, dernières techniques de baisse de consommation d'énergie, d'eau, de climatisation. Voilà, tout ça est important.
Alors ça peut être clair quand on parle d'immobilier neuf, mais vous aussi, vous avez des investissements dans l'immobilier ancien, et donc là, ça demande des gros travaux de rénovation, j'imagine.
L'immobilier est constitué d'immeubles anciens de manière globale, et c'est important d'avoir une démarche de progression, de best in progress. On ne peut pas avoir que des immeubles neufs en France et en région parisienne, donc il faut en permanence améliorer le parc existant, et c'est ça que nous travaillons au quotidien.
Merci beaucoup Christophe. Christophe de Courtivron, qui était donc avec nous, directeur des partenariats CGP de Parial Asset Management.
Merci beaucoup Étienne, on se retrouve dans une petite demi-heure. Vous serez de nouveau dans les allées de ce salon BFM Patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Nos deux premiers invités en plateau avec moi, David Wiersba, directeur du développement de Varenne Capital Partner. Bonjour David.
Bonjour Stéphane.
Bonjour à vous également François Juvin, directeur général de Wise Asset Management. Merci d'être avec nous. On va parler l'un et l'autre de votre positionnement sur le marché. David, quel est le positionnement de Varenne sur le marché de la gestion de patrimoine?
Alors Varenne, c'est une société de gestion indépendante qui existe depuis une quinzaine d'années. On gère aujourd'hui 3,7 milliards. On a collecté 850 millions depuis le début de l'année, dont une grande partie vient du retail français au global, notamment de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Donc on est présent depuis très longtemps sur ce marché. On est ravis aujourd'hui d'ailleurs d'être ici et de voir nos partenaires. On a pendant longtemps été privés d'échanges physiques. Donc c'est un vrai plaisir de partager ces moments. Et l'objectif de Varenne, c'est de continuer à adresser ce segment de clientèle, qui est un segment privilégié pour nous.
Comment combiner performance tout en lissant la prise de risque dans l'environnement actuel?
Alors c'est une excellente question. L'environnement est assez complexe à décrypter. Je dirais que c'est l'ADN de Varenne. L'objectif de la gestion Varenne, qui est bien connu justement de nos partenaires, est d'assembler, de combiner des stratégies de gestion complémentaires pour essayer d'être performant dans des configurations de marché différentes, des configurations de marché changeantes. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, et je pense depuis des années, de faire des prévisions de marché. Ouais. Donc justement, cet ADN d'avoir quatre stratégies, une stratégie long action de sélection d'entreprises de qualité dans une vraie gestion de conviction avec des critères qui nous sont propres, comme stratégie cœur, mais des stratégies autour de décorrélation et de couverture qui nous permettent d'essayer d'être performants avec des configurations de marché qui peuvent changer. Donc les stratégies de décorrélation et de couverture, c'est du short, de l'arbitrage de fusion-acquisition, et enfin des couvertures macroéconomiques. Donc je dirais en réponse à votre question que justement l'ADN de Varenne, c'est d'essayer de limiter les drawdowns, limiter les baisses au maximum. Ça a été le cas pour notre gestion fin 2018 ou début 2020, et essayer dans les phases de hausse de prendre cette hausse au maximum. Donc vraiment la réponse qui est apportée depuis toujours par notre gestion, c'est vraiment d'essayer de lisser la performance dans le temps, limiter les baisses et prendre les hausses.
Performer en choisissant les bonnes entreprises, par exemple?
Oui, absolument. C'est un petit peu la nouveauté, je dirais, de 2021. Ces dernières années, le marché montait de façon un petit peu indifférenciée, notamment en 2020, avec les aides, évidemment, qu'on a connues des banques centrales et des États. Ce qu'on constate chez Varenne depuis plusieurs mois, c'est une dispersion. Une dispersion entre les secteurs, à l'intérieur même des secteurs, une dispersion entre les entreprises. C'est à nous, en tant que gérant actif, de sélectionner les bonnes entreprises, celles qui seront les vainqueurs de demain et celles qui tireront bénéfice de cet environnement, comme on le disait, qui est complexe.
Quels sont les risques aujourd'hui que vous identifiez?
Alors, il y en a beaucoup. Avant 2020, on identifiait déjà un certain nombre de risques. On dit chez Varenne qu'il y avait déjà pas mal de nuages au-dessus de notre tête. Les nuages se sont épaissis. Donc on identifie des risques qu'on protège avec cette stratégie de couverture macroéconomique qui est justement là pour protéger nos investisseurs contre les risques majeurs. Il y en a plusieurs, je les cite rapidement. Un, c'est une chute des marchés actions. On sait qu'on bat des records historiques tous les jours sur les indices, donc on n'est pas à l'abri avec un grain de si jamais il y a un grain de sable dans la machine d'une baisse des marchés. Donc on a une protection là-dessus. On a aussi une protection contre l'inflation. C'est un thème qui est évidemment
récurrent.
C'est un risque identifié chez nous, donc on le protège en prenant des positions sur les matières premières. Et on a d'autres protections contre des risques majeurs de crise financière ou économique. Donc on a un budget alloué dans chacun de nos fonds pour protéger nos investisseurs contre ces risques majeurs qu'on identifie.
Quels sont vos projets de développement, votre stratégie ?
Alors, les projets de développement, on en a beaucoup. Continuer à nous développer auprès de nos clients qui sont présents aujourd'hui. On a aussi des velléités de développement dans des contrées un peu plus lointaines. On adresse une clientèle internationale chez Varenne depuis longtemps, mais on a aussi un projet d'ouverture de bureaux aux États-Unis, de développement en Asie. Donc l'objectif, voilà, c'est de continuer à améliorer notre gestion et délivrer la meilleure performance possible pour nos clients. Ça, c'est fondamental et primordial. Et continuer à nous développer auprès de nouveaux segments de clientèle.
François Jubin, merci d'être avec nous. Directeur général de Wise Asset Management. Surpondération aux actifs risqués qui est amenée, vous le dites, à se réduire. Expliquez-nous.
Oui. Alors d'abord, surpondération, parce que aujourd'hui l'environnement obligataire en devise qui est la nôtre en euros est quand même pas extrêmement attractif et comporte également des risques, même s'ils sont pas énormes, mais ils comportent quand même des risques. Donc aucun intérêt à rester sur cette classe d'actifs. Et puis on est quand même dans une dynamique économique dont les entreprises bénéficient grandement. Elles savent capter toute la croissance, elles savent transformer cette croissance, elles savent se réinventer. Et donc les sujets d'investissement aujourd'hui sont des sujets autour des actions pour la partie performance. Et puis il y a aussi beaucoup de choses à faire dans la gestion alternative, oui. Où on va la gestion absolute return, qui va être justement là pour pallier à cette problématique de faiblesse des taux.
En termes d'équilibre géographique, quelle est votre stratégie ?
Alors, quand on parle des actions, j'entends dire que les marchés actions ont bien performé, sont peut-être survalorisés. Les marchés actions, c'est pas unique. Donc il y a plusieurs cycles. On voit que les États-Unis sont très en avance aujourd'hui en matière de croissance, sont bien orientés. L'Asie est un peu à la traîne aujourd'hui. L'Europe est un peu embarquée dans des problématiques de sanitaires. Et donc, dans toutes ces zones-là, eh bien, il faut savoir évoluer. Et donc aujourd'hui, nous avons pas mal d'opérations sur les États-Unis. On a aussi beaucoup de valeurs de croissance sur la partie européenne. Et les émergents seront sans doute un thème qui sera intéressant en matière de performance sur l'année 2022.
Vous avez un biais croissance et small cap assumé. Expliquez-nous.
Oui, parce que il faut créer de la valeur pour les portefeuilles. Donc créer de la valeur, soit les prix s'envolent dans le vide, ou soit les prix s'envolent parce que les résultats des entreprises, les chiffres d'affaires des entreprises progressent. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller aujourd'hui chercher, et comme par le passé d'ailleurs, on voit que sur les dernières années la croissance a fait énormément de bien au portefeuille. Il faut continuer à aller travailler sur ces thématiques qui sont là encore différentes selon les cycles.
Quelle est votre combinaison, votre équilibre entre gestion active, gestion passive ?
Alors la gestion active, c'est un positionnement de cœur de portefeuille, parce qu'on croit beaucoup, nous, que dans chacun des micro-marchés, il y a des spécialistes qui savent extraire de la valeur. Ça, c'est de la gestion active. Et puis il y a des cycles, il y a des moments où les marchés montent, il y a des moments où les marchés baissent, et la gestion passive est un formidable instrument pour justement travailler sur ces cycles, et puis pour réduire également les frais courants dans les portefeuilles.
Dans votre stratégie également, optimisation d'une poche absolute return en alternative aux obligations.
Oui, alors j'en parlais tout à l'heure. Oui. Là encore, on a affaire à un marché de spécialistes qui vont chacun dans des thématiques précises. Ça peut être sur les obligations, ça peut être sur les fusions-acquisitions, ça peut être sur les arbitrages d'indices, une valeur qui sort des grands indices, une autre qui rentre dans les indices, avec des dynamiques de prix qui sont différentes. Et là, on arrive à trouver des gérants qui savent extraire de la valeur avec des risques qui sont plus des risques directionnels comme on les on les connaît. Et le tout, c'est de savoir finalement équilibrer ces différentes poches pour que, au final, on arrive à avoir un véhicule qui soit clé en main et qui serve le patrimoine des gens qui peuvent, comme ça, passer à autre chose.
Merci beaucoup, François Jubin, directeur général de Wise Asset Management. Merci également à vous, David Wiersba, directeur du développement chez Varenne Capital Partners. On va parler immobilier dans un instant.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Toujours en direct du salon BFM Patrimoine, on va maintenant s'intéresser à l'investissement immobilier. Selon une enquête Opinionway, c'est le placement préféré des Français. 23% des Français estiment que l'immobilier est le moyen le plus approprié pour épargner, devant le livret A, 19%, et l'assurance vie, 14%. On va parler immobilier avec nos trois invités. Tristian Barrès, directeur général de Pearl. Bonjour, merci d'être avec nous. Mathieu Bonjour. Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. Bonjour. Et Daniel Will, directeur recherche, stratégie et développement durable, évidemment, chez Patrimonial REM.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Tristan, d'abord une question, peut-être un commentaire sur l'attrait des Français pour l'immobilier.
Alors, les Français sont très attirés par l'immobilier. Si je peux parler, moi, de ce que l'on fait au sein de Pearl, notamment sur le démembrement de propriété, oui, la nue propriété, qui est une façon d'investir patrimonialement dans un logement et avec une valeur sociétale. Donc, en gros, le démembrement de propriété, l'usufruit locatif social, c'est Pearl qui l'a inventé il y a 21 ans. On est le leader sur ce marché-là. Et en gros, ça consiste à vendre à un investisseur la nue propriété avec une décote de 30 à 40% par rapport au prix du marché. La contrepartie de cet avantage, c'est de confier le logement, l'usufruit, à un bailleur institutionnel pour une durée minimale de 15 ans pour que ce dernier puisse y loger des personnes sous plafond de ressources avec des plafonds de loyer. Et au bout des 15 ans, l'investisseur récupère son bien et il en fait ce qu'il veut. Il peut le garder, le vendre ou le louer.
Quel est l'avantage d'investir en nue propriété?
Alors le premier avantage, c'est la décote initiale, 30 à 40%. Un logement qui vaut 100 000 euros sur le marché, l'investisseur l'achète 60, 70 000 euros. C'est 30 à 40% de décote. Mmh. Il y a évidemment d'autres avantages, notamment fiscaux. Mais l'intérêt, c'est donc de placer son argent dans les murs, de récupérer la pleine propriété du logement au bout de 15 ans sans fiscalité.
À quel profil s'adresse ce type d'investissement?
Alors, d'abord, ce sont des personnes qui investissent pour faire un investissement patrimonial. D'abord, c'est je place mon argent quelque part. Ce sont des personnes qui ont de l'argent et donc qui veulent mettre leur épargne dans le logement.
Mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge?
Alors, il y a des tranches d'âge. Et en fonction de l'âge, effectivement, les projets sont différents. Pour les 40-45 ans, c'est pour faire un primo investissement. Pour ceux qui ont 50 ans à peu près, c'est pour un logement, investir dans un logement pour leur retraite, qu'ils récupéreront donc lorsqu'ils seront à la retraite. Et puis pour ceux qui sont plus âgés, c'est aussi avec une idée d'une transmission de patrimoine in fine.
Comment s'organise le débouclage à la fin de l'investissement, à la fin de l'usufruit?
Alors, le débouclage, c'est une étape importante pour Pearl. On est seul acteur à opérer le débouclage. C'est important de le savoir. On n'est pas le seul acteur à faire du démembrement de propriété, mais on est le seul à suivre le projet de A à Z, du début à la fin, en accompagnant tous les investisseurs, y compris sur le marché secondaire, c'est-à-dire s'ils veulent revendre la nue propriété en cours de route. Et on les accompagne également au moment du débouclage, c'est-à-dire que 3 ans avant l'échéance, on interroge les désirs des parties prenantes, ce que souhaite faire l'investisseur, la situation du locataire, et on trouve des solutions pour toutes les situations, que ce soit pour le locataire ou pour l'investisseur.
Un dernier mot peut-être sur la dimension socialement responsable. Ça aussi, c'est l'une de vos particularités.
Alors, c'est une particularité de Pearl également parce qu'on est société à mission depuis le début de l'année. Donc, c'est-à-dire que c'est très engageant pour nous. On a dans nos statuts une raison d'être qui est opposable. Donc c'est quelque chose que l'on suit tous les jours. Évidemment, c'est responsable parce qu'on produit du logement abordable dans le cœur des villes. pour y loger les actifs au plus près des emplois. Et c'est également responsable dans le sens où je pense que ce type de produit, le démembrement de propriété, et c'est la marque de fabrique de Perle, doit être suivi dans le temps. On est un opérateur de long terme. On n'est pas là pour faire des coûts. On est là pour proposer un service aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux, mais aussi aux investisseurs, et de les suivre dans le temps, de les accompagner dans le temps, pendant les 15 ans, s'ils ont un problème, et au bout des 15 ans, au moment du débouclage, pour qu'il y ait aucun problème de sortie, ni pour le locataire, ni évidemment pour l'investisseur.
La pierre papier, investir dans l'immobilier à travers une SCPI, on va en parler avec vous, Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. Vous gérez une gamme de SCPI pour compte de tiers. Vous avez une double particularité, c'est que vous gérez une typologie d'actifs assez large et vous êtes présent sur plusieurs marchés en Europe.
C'est exactement ça. Paref Gestion est une société de gestion de portefeuille immobilier. En effet, on existe depuis 30 ans maintenant et on gère pour compte de tiers institutionnels et particuliers une gamme de SCPI qui en effet a de ces deux particularités. D'abord d'être spécialisée par classe d'actifs et par territoire, d'être européenne. On est présent en France et puis on a deux territoires très importants pour nous, l'Allemagne et l'Europe centrale. On gère 1,8 milliard d'euros d'encours sous gestion, 5 SCPI à capital variable et ce sont 21 000 associés qui nous ont fait confiance.
Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, une spécificité des SCPI en Europe centrale ?
En tout cas, on est largement interrogé, et je crois que c'est vraiment le thème du salon, sur les SCPI européennes. Et nous intervenons sur ces deux secteurs de prédilection, le premier étant l'Allemagne, le second, l'Europe centrale. Notre première intervention depuis 2014, et Paref a été précurseur en la matière, c'est l'Allemagne. Et le second, effectivement, est beaucoup plus récent, l'Europe centrale, sur trois pays que sont la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, et cinq villes extrêmement dédiées. Plusieurs raisons à ces interventions. La première, c'est d'offrir une gamme de SCPI qui répondent aux ambitions en tout cas des investisseurs, ouais. C'est d'aller capter des dynamiques économiques qui sont excessivement porteuses. On l'a vu d'ailleurs avec l'Allemagne, qui en 2020 est le deuxième pays d'investissement dans le monde après les États-Unis, qui regroupe quasiment 60% de ses investissements sur le sol réalisés par des étrangers, donc une tension de marché. Donc les CGP nous interrogent sur la manière dont on a géré cela. Et puis l'Europe centrale, qui elle a continué son embellie et qui nous a permis d'investir effectivement assez massivement.
Est-ce qu'il y a un intérêt particulier sur le plan fiscal d'investir en dehors de France ?
Alors en effet, ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. On le sait, sur les SCPI françaises, eh bien, on est taxé sur des revenus fonciers, c'est-à-dire tranche marginale d'imposition, prélèvements sociaux. Lorsque les actifs sont détenus à l'étranger, au-delà des avantages économiques et du rendement en tant que tel, la fiscalité est largement amoindrie. On parle, alors je pourrais pas rentrer dans les détails techniques ici et des règles qui dépendent des conventions fiscales en vigueur, mais on parle d'une fiscalité entre 10 et 15%, ce qui est très éloigné de ce qu'on connaît sur le sol français.
Quels sont les critères de sélection des SCPI pour les conseillers en gestion de patrimoine ?
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une des questions qu'on nous pose. Et je crois que ça a été porté par 2020. En tout cas, ça a été mis en exergue. C'est de nous dire, finalement, au-delà du rendement, est-ce que vous, gérant, vous pouvez ouvrir le capot et nous expliquer à nous, CGP, à moi, client final, ce que vous achetez pour mon compte, moi épargnant, parce que j'ai une logique de conservation sur 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que vous mettez en place en tant que société de gestion pour finalement répondre à mes intérêts sur les 15 à 20 prochaines années. Donc on parle de qualité des actifs que l'on achète, de date de construction, on parle des locataires, on parle de la durée résiduelle des baux. Finalement, tous ces critères qui, au-delà de l'affichage très marketing du rendement, permettre de garantir la pérennité du support.
Une dernière question, les perspectives pour 2022, j'imagine qu'on vous pose également beaucoup la question.
Alors, et c'est un grand sujet d'actualité puisqu'effectivement on a fait prendre un virage très fort pour la société de gestion depuis 2020, une très large transformation, un très gros renforcement de la société de gestion d'un point de vue serviciel, également sur l'élargissement et la rationalisation de notre gamme de fonds. Donc on a bâti finalement depuis 2 ans tout ce qui était demandé par le marché, demandé par nos partenaires. On arrive sur la phase d'aboutissement et finalement on a des bases extrêmement solides pour affronter de 2022 dans de très belles auspices.
Merci beaucoup. On va terminer cette partie consacrée à l'immobilier avec l'aspect environnemental. C'est évidemment un secteur très polluant et donc très concerné par la transition écologique. On va en parler avec vous, Daniel Will, directeur recherche, stratégie et développement durable chez Patrimonial REM. Pourquoi est-ce que la décarbonation de l'immobilier est cruciale pour atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique ?
Je dirais que si on additionne à la fois la construction, l'exploitation, les bureaux, le résidentiel, l'énergie qui est consommée dans les bâtiments et l'énergie qui est consommée pour que les bâtiments se chauffent et dans les, à partir des différentes centrales d'énergie et autres, l'immobilier, c'est directement et indirectement à peu près 40% des émissions carbone dans le monde.
Ouais, c'est énorme.
Avec un monde qui s'urbanise de plus en plus. Mmh. Donc, il n'y a pas de solution au réchauffement climatique qui ne passe pas par l'immobilier. Et donc, c'est pour ça que, à la fois, c'est crucial. Je rappelle que la France a un objectif de décarbonation totale de son parc immobilier, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, de 100%, c'est-à-dire décarbonation totale à horizon 2050. Et donc, toutes les démarches de type label ISR et autres dont on va parler, elles s'inscrivent en fait dans cet agenda-là.
Justement, ce label ISR appliqué au fonds immobilier, dans quelle mesure est-ce qu'il peut contribuer à atteindre cet objectif qui paraît très ambitieux, hein ?
Alors, qui est très ambitieux, que le label ISR pour l'immobilier, le label ISR, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais le label ISR pour l'immobilier existe depuis à peu près un an et demi. Donc c'est vraiment un acte très fort qui a été posé par les sociétés de gestion de créer ce label. On a nous-mêmes deux SCPI qui sont labellisés Primo Pierre et l'OPCI Prime ISR, et on aura bientôt une deuxième SCPI qui sera labellisée ISR. Fondamentalement, ce label, c'est un label qui porte sur les process qui nous permettent justement d'atteindre ces objectifs de décarbonation. Alors, c'est pas seulement l'environnemental, c'est également le social et toute la gouvernance qui est absolument cruciale pour faire fonctionner ce système-là. Donc, c'est un label qui est assez bien fait, même très bien fait, je trouve, avec des critères de notation environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui embarquent vraiment ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les locataires, les administrateurs de biens, les prestataires de travaux, etc. Et qui est un label, ça c'est très important, dit best in progress dans son essence. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de construire du neuf ou de construire du vert, parce qu'il faut bien voir que 60% du carbone dans le cycle de vie d'un immeuble est produit à la construction. Donc la solution au problème qu'on évoquait, c'est pas de construire toujours plus de vert. La solution, c'est d'améliorer l'existant, qui en immobilier fait 98% du parc. Et c'est ça la vocation de ce label.
Et est-ce que tous les fonds labellisés ISR sont comparables entre eux ?
Ils ne sont pas comparables entre eux au sens où il est difficile de comparer la labellisation ISR d'un fonds logistique ou d'un fonds de santé ou d'un fonds de bureau ou d'un fonds qui serait dans tel et tel pays, mais il n'est pas comparable de la même manière que des entreprises ISO 14001 ne sont pas comparables entre elles. En fait, ce que montre le label ISR, c'est un niveau de qualité dans la gestion et dans le suivi de ces indicateurs.
Un dernier mot, est-ce qu'il y a une contradiction entre performance extra-financière et performance financière ?
Au contraire, aujourd'hui, il y a un alignement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un moment de marché où, quand on va vendre dans le futur des immeubles, ceux qui vont les acheter, c'est-à-dire les institutionnels, auront ces mêmes critères, effectivement, de d'évaluation extra-financière. Et donc, ça va faire partie de la liquidité du marché. Et moi, je crois au contraire qu'on est dans un marché où ce qui est déjà de qualité va devenir de plus en plus cher, donc de plus en plus rentable pour ceux qui l'achètent maintenant, et ce qui n'est pas au niveau va devenir de plus en plus décoté.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Daniel Will, Primonial REM. Merci à vous, Mathieu Navarre, Baref Gestion, et Tristan Barès de Perle. Dans un instant, on va faire un nouveau point sur la séance en cours à la Bourse de Paris. On est toujours dans le vert, mais c'est vrai qu'on manque un petit peu de repères aujourd'hui. Le CAC progresse de 0,26%. A tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Toujours en direct du salon BFM Patrimoine, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dans un instant, on va parler de l'assurance vie luxembourgeoise. Quel est l'avantage pour les investisseurs français, notamment ? On va en parler avec notre invité. Mais d'abord, un point sur la séance en cours à la Bourse de Paris avec Alexandre Baradez, chef de la stratégie de marché chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Progression à Paris, plus 0,28%. Évidemment, on manque un peu de repères aujourd'hui puisqu'il n'y aura pas de séance aux États-Unis.
Effectivement, c'est une séance qui doit être un peu sans relief pour la partie européenne dans l'absence des marchés américains. Après, il y a quand même un enjeu un peu technique sur la séance du jour, de voir comment justement les marchés se comportent en l'absence de ces flux US. Après, un peu plus de 3% de correction, on voit que le marché tente de s'en prendre un petit peu. Alors, c'est une correction qui est bien, compréhensible par rapport au contexte européen. Ça s'est fait sur des critères surtout sanitaires, avec une évolution de la situation qui n'est pas favorable en Europe. On attendait des annonces de la France dans quelques heures. L'Allemagne hésite toujours sur la question d'un confinement un peu sur le modèle autrichien, donc un modèle un peu plus dur, un peu plus complet en termes de confinement. Après, ça reste aussi, je pense, des réactions un peu technique du marché, ce retracement. C'est ce qu'on anticipait les jours précédents, à savoir un marché donc, qui avait excédé sa résistance historique pour le CAC hors dividende à 6944 points. Et là, on a ce qu'on appelle un pullback, en fait, de manière assez classique, alors alimenté par un flux d'informations qui va dans le sens d'un retracement de marché. Mais c'est pas rare de voir des marchés qui retracent comme ça, c'est-à-dire qui viennent chercher d'anciennes résistances et s'assurer que ces niveaux deviennent des supports. Donc, on s'approchait à une quarantaine de points de ce support, donc il n'a pas été complètement touché. Donc, d'un point de vue technique, on peut pas dire que le pullback a été complètement réalisé. Et donc, c'est pour ça que moi, je reste un peu prudent pour l'instant. C'est-à-dire que si effectivement on a un CAC qui parvient à revenir sur le sommet, là, il n'y a pas trop de soucis. Je pense qu'on peut chercher la poursuite de momentum, poursuite de tendance, et on garde la tendance des semaines précédentes. Mais on est trop bas pour l'instant, je trouve, pour ça. Et je serais toujours méfiant d'un retour à 7000. C'est-à-dire, si on voit un CAC à 7000, alors qu'on a 7000, 7050, 60 ce matin, je pense que là, il va chercher que même les algos, en fait, hein, ce serait une question après un petit peu automatique aussi du marché. Si on retrace à nouveau à 7000, je pense que le marché va être happé par la question technique des 6944 points et il pourrait même retomber un petit peu en dessous. Donc je pense que cette hypothèse, il faut la garder dans un coin de sa tête, elle n'est pas complètement terminée. Le CAC tente de rebondir, on a un peu une tentative de rebond sur les marchés américains, hier donc, hein, mais avec une volatilité qui ne retombe pas complètement côté US. Hein. On avait un VIX qui est monté à 21 hier, qui en fin de séance s'est rabattu vers les 18-19, mais ça reste quand même un niveau de volatilité qui montre une forme de je dis pas de stress du marché, mais de vigilance. Et hier soir, dans les minutes de la Banque Centrale Américaine, on voit, et sachant que ces minutes, il faut bien avoir conscience, elles datent d'une réunion qui a eu lieu avant les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc, déjà, ces minutes faisaient apparaître une vigilance du FOMC sur la nécessité d'être plus réactif, si nécessaire, sur la question du tapering et sur la question du redressement de taux. Donc, depuis, les chiffres d'inflation ont encore progressé aux États-Unis et les chiffres de l'emploi se sont encore améliorés. On a vu hier les inscriptions au chômage aux États-Unis qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1969. Donc, on ne peut pas dire que la situation depuis la dernière réunion de la Fed se soit dégradée, c'est plutôt l'inverse. Et donc, ça a de quoi attiser du coup et alimenter la question d'une banque centrale américaine qui serait un peu plus réactive. Et donc, ça peut aussi être en vent contraire pour les marchés pendant quelques temps encore.
Alexandre, en deux mots, le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit s'exprimer dans les prochaines heures. Dans quelle mesure est-ce que la situation sanitaire constitue une menace pour la reprise et pour les marchés?
Alors, moi, je ne serais pas tellement inquiet pour la France, en fait. Il y aura forcément des mesures, des annonces. Ils vont inciter les gens, effectivement, à prendre une troisième dose et sur des limitages qui seront rabaissés. Donc, ça, on va ouvrir la voie au booster, en fait, comme dans tous les pays de la zone euro. Moi, je suis moins inquiet de la situation en France. Je pense qu'elle peut, effectivement, c'est un problème dans les questions un peu comportementales où certains peuvent être un peu moins tentés de ressortir. Tout ce qui est la partie service qui, donc, peut un petit peu souffrir à nouveau. Je serais plus inquiet de ce qui pourrait se passer en Allemagne, en fait. Hein. On voit d'ailleurs que ça arrivait plutôt par l'Est, hein, les inquiétudes ces derniers jours. D'abord l'Autriche, on voit que l'Allemagne, les sources de marché qui indiquaient que Merkel avait proposé un confinement généralisé, en fait, en Allemagne, et que la coalition aurait refusé. Je mets tout ça au conditionnel. Donc, pour moi, la menace, elle est plutôt du côté allemand, si vous voulez. C'est plus ça, l'épée de Damoclès au-dessus des marchés européens. Après, je pense que c'est aussi un alibi pour le marché pour prendre ses gains. Il y aura un petit impact économique, c'est une évidence, s'il y a des mesures de restriction économique, mais qui, je pense, sont quand même beaucoup moins fortes que celles qu'on a pu connaître dans les phases où il n'y a pas la vaccination. Donc, on peut s'attendre à des vents contraires économiques, c'est une possibilité, mais en revanche, en termes d'impact marché et de volatilité marché, je pense que c'est à mettre dans un tout avec les questions de hausse de coûts, les questions de ralentissement monétaire et les questions sanitaires viennent se greffer un peu là-dessus, mais c'est un ensemble. Je pense pas que les questions sanitaires viennent exacerber la volatilité, elle vient simplement ajouter un petit poids sur les épaules du marché et de quoi le faire retracer un petit peu.
Merci beaucoup Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG. On fera un nouveau point sur la séance en cours à la Bourse de Paris tout à l'heure à 11h.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Souscrire une assurance vie luxembourgeoise, rendement, fiscalité, législation, quels sont les avantages, quelles sont aussi les contraintes? Il y en a pour les épargnants français qui ont choisi une assurance vie au Luxembourg. Pour y répondre, David Liebmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance, leader européen du marché de l'assurance vie luxembourgeoise, 100% en unité de compte. Vous êtes présent, je crois, sur 12 marchés en Europe, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait, en Europe, et on a aussi une couverture internationale, parce qu'on couvre des marchés comme les États-Unis, l'Amérique latine et l'Asie, mais historiquement, on est très présent en Europe.
Vous allez rencontrer les épargnants français au salon BFM Patrimoine. Quel est l'intérêt pour eux d'investir dans une assurance vie luxembourgeoise ?
Alors, vous parliez rendement, fiscalité, contraintes. Le privilège de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est d'offrir un contrat français avant tout. Donc on retrouve exactement les mêmes règles de fiscalité que pour un contrat français. Donc nos partenaires, leurs clients s'y retrouvent avec un contrat où on offre une capitalisation des revenus, on offre des avantages à la transmission, à la succession, mais surtout on retrouve des avantages supplémentaires et c'est la raison de la pertinence de cette offre luxembourgeoise qui grandit en France. La France, c'est le premier marché pour l'assurance vie luxembourgeoise parce que le contrat d'assurance vie offre des avantages supplémentaires.
Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette année 2021? On a déjà trois trimestres. Je crois que les chiffres sont en hausse, tirés par les unités de compte.
Oui, tout à fait. Alors justement, une très bonne année pour le contrat luxembourgeois qui a prouvé ses forces dans le marché français, tiré par les unités de compte. Chez Lombard International Assurance, on est un assureur 100% unité de compte, il n'y a pas d'autre alternative. En revanche, il y a une multitude d'actifs éligibles au contrat, que ce soit des actifs cotés, des actifs non cotés, des unités de compte en gestion discrétionnaire, le FID, bien connu maintenant, le FAS, dans lequel le client et son courtier peuvent mettre en place une gestion conseillée sur des fonds, sur des actifs en direct, des actions, de la dette, mais également des produits structurés, du marché secondaire sur ces mêmes produits structurés, du private equity, des produits liquides, des produits immobiliers. Donc un éventail, un univers d'investissement qui est profond et large et qui répond aux besoins.
Comment vous expliquez ce succès ?
Alors comment on explique ce succès ? Je pense que justement la pertinence de cette offre dans un marché où il y a plus de sophistication, d'abord côté client, on a des schémas de famille qui ont évolué, des familles qui sont mobiles, des familles recomposées, des familles internationales, donc le schéma patrimonial évolue, le contrat d'assurance vie, ça reste un des outils patrimoniaux les plus pertinents pour cela, et ensuite la nécessité d'aller chercher du rendement. On le sait bien, les taux sont bas, durablement. Le cash, les liquidités sont taxées négativement. Donc aujourd'hui, quand on veut construire un profil d'investissement qui réponde à un profil de risque, eh bien, il faut aller chercher un éventail d'actifs plus large. C'est typiquement ce qu'offre le contrat d'assurance vie luxembourgeois.
On s'était rencontrés il y a quelques semaines, vous nous aviez parlé de la transformation digitale. En quoi est-ce que ça concerne l'assurance vie luxembourgeoise ?
Alors, c'est très important. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet tarte à la crème du digital avec le Covid, avec la nécessité d'automatiser, de sécuriser, d'harmoniser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Le digital pour le contrat d'assurance vie luxembourgeois, comment ça se distingue ? Je parlais du phénomène de plateformisation. On donne accès à beaucoup d'actifs, à beaucoup de contreparties. On travaille avec plusieurs banques dépositaires partout en Europe. Il y a différents intervenants dans la chaîne. Il y a le client, ses conseillers, le courtier, la compagnie d'assurance, les banques, les sociétés de gestion. Il y a donc ce côté plateformisation. L'aspect du digital, c'est d'offrir un hub, un accès harmonisé, facilité, qui permet de gérer en toute sécurité la souscription, le traitement des informations du client, les transactions, donc toute la vie du contrat. Et donc évidemment, le développement du digital chez un assureur, c'est avant tout des moyens, des ressources, s'engager dans le temps, pas simplement proposer un outil, mais quelque chose qui va être pertinent pour le client, le distributeur et puis pour l'assureur.
Qu'est-ce que ça implique ?
Alors ça implique, je le dis, de repenser notre stratégie, notre architecture. C'est quelque chose qui a commencé, évidemment, pas ces quelques derniers mois, qui a commencé déjà il y a longtemps dans la construction de notre offre de service, de comment est-ce qu'on veut distribuer notre offre. Ça s'est accéléré, évidemment, ces dernières années. Je pense que la Covid, les périodes de confinement, quand on a besoin de rencontrer nos clients, eh bien, il a fallu mettre en place des outils, la dématérialisation, la souscription électronique. Ce sont évidemment aujourd'hui des choses qui vont devenir irrémédiablement les nouveaux outils des gestionnaires de patrimoine. Et c'est ce qu'on est venu notamment présenter sur ce salon BFM.
Merci beaucoup, David Liebmann, responsable de la distribution et de l'innovation chez Lombard International Assurance.
Merci.
Dans un instant, on va retourner dans les allées de ce sommet BFM Patrimoine, troisième édition, donc qui se déroule au Carrousel du Louvre.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Étienne Brack dans les couloirs, dans les allées de ce salon pour nous. Étienne, rebonjour. Vous êtes avec Mehdi Gaïji, président d'Horizon Asset Management.
Oui, avec Horizon Asset Management qui est spécialisé dans l'immobilier. Bonjour Mehdi, merci d'être
Bonjour.
Avec nous.
Merci
Horizon
à vous.
Horizon Asset Management.
Tout à fait.
Qui est spécialisé dans le financement des projets immobiliers.
Tout à fait. Nous, on s'adresse à des épargnants particuliers, sociétés, pour qu'ils puissent diversifier leur épargne. On leur propose de participer au financement de la production de logements. Donc, c'est une autre façon de faire de l'immobilier. On est habitué à faire de l'immobilier, j'achète, je les tiens. Et puis là, je vais créer l'immobilier. Donc, produire de l'immobilier, c'est un élément assez important parce que je peux influer sur ce que je fais. Donc, on peut concevoir de l'immobilier, notamment durable. On sait que c'est une thématique assez présente aujourd'hui. Et donc nous, on propose à des particuliers soit de rentrer en action. On a des fonds qui sont éligibles à des plans d'épargne en action, mais aussi des fonds qui sont obligataires. Donc quand on a besoin d'un complément de revenu, on peut aussi choisir de souscrire à une obligation pour percevoir un revenu complémentaire annuel. Donc différentes manières de pouvoir participer à cet effort. On a tendance à dire soyons citoyens, même dans l'épargne, ayons une épargne active et citoyenne. Et c'est vrai qu'on a un besoin de logement en France, un logement d'une nouvelle, je dirais, typologie, avec un nouveau usage qui s'est imprimé.
Et justement, est-ce que la période de coronavirus, est-ce que cette sortie de crise, en quelque sorte, a changé les attentes? Est-ce que vous le voyez dans les projets immobiliers ces dernières semaines, ces derniers mois?
Fondamentalement. Nous, déjà, l'usage, la projection qu'a le particulier dans le fait de se loger a changé. On cherche des espaces un peu plus grands, peut-être une pièce complémentaire, parce que le télétravail est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Un extérieur, un certain confort. Et puis bon, je dirais que depuis un certain nombre de mois, avec les thématiques environnementales, les rapports qui sont sortis du GIEC, la COP26, etc., on voit bien qu'il y a un investissement du particulier, on a envie d'acheter quelque chose qui soit plus durable. Et ça crée un changement total dans le rapport et dans le process de production, donc qui est anticipé, parce que je rappelle, à partir du 1er janvier, il y a même un changement de normes énergétiques qui rentre en vigueur sur les autorisations urbanistiques. Il y a un mouvement sociologique global qui est en train de s'opérer, qui est clairement perceptible. Hein. Donc ça, effectivement, nous, on accompagne ça. Je dirais même, le but, c'est même d'anticiper l'usage de demain. On ne peut plus penser le logement uniquement comme un endroit clos. Aujourd'hui, c'est l'usage qui compte. Donc l'écosystème dans lequel on se retrouve à l'intérieur et autour du logement. Typiquement, par exemple, on produit de plus en plus des résidences mixtes. Il y a l'habitat, mais il peut y avoir aussi d'autres services, une maison de santé, l'accès aux soins aujourd'hui fondamental. C'est pas facile. On parle parfois de désert, en tout cas de difficulté de prendre rendez-vous. Donc effectivement, il y a une réflexion fondamentale qui est portée par l'usager final et que nous, on accompagne en amont. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux épargnants, dire venez aussi participer à ça, c'est utile à tous, et ça nous permet d'être impactants dans un acte de production citoyen.
Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup. Mehdi Gaïji qui était donc avec nous en direct depuis ce sommet BFM Patrimoine. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Mehdi Gaïji qui était donc le président d'Horizon Asset Management.
Merci beaucoup Étienne. On vous laisse vous frayer un passage dans la foule et on se retrouve dans trois petits quarts d'heure avec un autre invité en direct de ce sommet BFM Patrimoine. Tout de suite, on parle investissement responsable.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Donner du sens à son investissement, choisir des supports responsables. On va en parler avec nos deux invités, Olivier Marié, directeur général du comptoir Amundi chez CPR Asset Management. Bonjour.
Bonjour.
François-Régis Bernicot, membre du directoire de Suravenir. Bonjour également et merci Bonjour. D'être avec nous. L'assurance vie responsable, François-Régis, on est en plein dans les attentes des investisseurs pour le coup.
Alors c'est vrai que c'est une période captivante. Captivante pour notre industrie parce que ça lui redonne du sens. Aujourd'hui, dans la conjoncture, on a une manne d'épargne inédite. Donc ça offre des opportunités importantes pour que nous, assureurs, qui sommes des collecteurs de l'épargne, on puisse les flécher au service de la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment une transformation profonde de l'industrie financière. On est très fiers d'y participer et on a de grandes ambitions en la matière.
Un mot peut-être de la réglementation. Évidemment, c'est indispensable. C'est parfois aussi un peu complexe.
Alors, c'est vrai qu'il y a un empilement de textes réglementaires en la matière. On a des textes mondiaux, avec notamment les accords de Paris, qui ont fixé un cap, une ambition importante. On a des textes européens aussi, en marge du Green Deal, qui ont été mis en place pour financer l'effort des Européens au service de la transition énergétique. Et notamment le règlement Disclosure, qui est très important. Et puis, on a aussi des textes français. La loi Pacte, notamment, et puis la loi sur la transition énergétique. Alors, la loi PAC, par exemple, il y a une obligation importante qui va se renforcer au 1er janvier prochain, c'est que sur chaque contrat d'assurance vie, on devra avoir une unité de compte labellisée ISR, une unité de compte labellisée FinanSol et une unité de compte labellisée Greenfield. Voilà, ça c'est une obligation très concrète qui va avoir lieu pour tous les contrats d'assurance vie distribués en France au 1er janvier 2022.
Cette complexité, est-ce qu'elle ne rend pas parfois les choses difficiles à suivre, difficiles à anticiper ?
C'est un travail constant de suivi, c'est un travail constant d'adaptation. Nous, on a en la matière, si vous voulez, une ambition forte, une ambition d'un groupe coopératif avec nos parties prenantes, nos administrateurs. On n'a pas d'actionnaire. Hein. Sur Amner, c'est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. On a pour ambition d'investir lourdement dans cette transition. Et donc, de ce fait-là, travailler sur ces sujets, investir sur ces sujets, c'est au cœur de nos préoccupations. Donc, alors, c'est pas difficile, c'est un vrai plaisir parce qu'on entraîne avec nous tous nos partenaires.
Justement, votre stratégie, vos objectifs, quel est votre plan d'action sur le marché de l'assurance vie responsable ?
Alors, on a déjà une ambition, je viens de la rappeler. On a aussi une démarche. Ça, je pense que c'est plus important parce que on a la vocation, on a la volonté d'être un partenaire financier agile pour financer ces transitions. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, on va pas être dans la surenchère d'annonces. On va être, par contre, un acteur pragmatique qui va chercher à animer nos parties prenantes. Donc, par exemple, alors, on a deux rôles principaux, nous, en tant qu'assureurs. On a un premier rôle d'investisseur. On a un investisseur de long terme. Donc, on s'est doté d'une stratégie climat. Donc, on a une ambition, c'est d'aligner notre stratégie d'investissement vers un horizon bas carbone à horizon 2030. Mmh. On a aussi une politique d'exclusion sur le charbon thermique. Hein, donc, on va sortir du charbon thermique à horizon 2027. Alors, c'est des échéances quand même qui paraissent pour certains encore un petit peu lointaines. Mais on ne fait pas que ça. On a aussi une autre ambition très importante sur le référencement de ce qu'on appelle les unités de compte. Et là, c'est un petit peu une singularité. On va se doter en fait d'un cadre pour sélectionner nos sociétés de gestion partenaires. On va leur demander de signer les principes d'investissement responsable des Nations Unies, d'une part, et on va leur demander aussi d'avoir une politique d'exclusion du charbon. Ça, c'est un axe important qu'on va avoir pour travailler demain avec nos partenaires.
Quand vous dites que vous avez une approche pragmatique, ça veut dire pas d'exclusion a priori ?
Alors, on a une exclusion
sur le charbon, mais en horizon 2027, vous venez de le dire.
On va renforcer ce cadre petit à petit, mais on va pas aller trop vite parce qu'il faut pas non plus qu'on s'exclue des dynamiques de marché. Il faut qu'on préserve aussi les intérêts des épargnants. Et donc, sur le référencement des unités de compte, là aussi, c'est important. On va aller au-delà du référencement de nos partenaires. On va avoir une démarche sur la sélection des unités de compte. À compter du 1er janvier l'année prochaine, on ne référencera plus d'unités de compte qui n'a pas un objectif de durabilité au sens de la réglementation Disclosure.
Vos offres, vous dites innovantes, expliquez-nous.
Alors, on a au-delà de ces engagements qu'on a sur les unités de compte, on a effectivement lancé de longue date. On a été précurseur sur ces contrats solidaires. On a lancé il y a quelques années un contrat qui s'appelait Éthique Vie en 2015. Et là, on a aujourd'hui un contrat dans la gamme Vie Plus qui s'appelle Vie Plus Impact où on n'a plus de rétrocession. On a innové sur les futurs schémas de commissionnement. Donc, c'est un contrat qui a également 4 mandats thématiques qui sont directement à impact, investisseurs responsables, objectifs de développement durable. Donc on a aussi, dans notre offre, on a enrichi nos supports pour permettre à nos clients d'investir leur épargne en leur donnant du sens.
Un mot peut-être pour terminer sur vos valeurs. C'est important, quand on parle d'investissement responsable, de rappeler quelles sont les valeurs de votre entreprise.
Alors, les valeurs, nous, c'est on est agile, responsable et engagé. Ça, c'est les valeurs de V+. Et puis, ce que je pourrais vous dire en conclusion pour nous, c'est que notre objectif chez Suravenir et chez Vie+, c'est de repenser l'assurance vie de demain pour avoir une finance plus durable et plus inclusive.
Merci beaucoup. Merci pour ces explications, François-Régis Bernicot. Suravenir, Olivier Marié, vous êtes directeur général du comptoir Amundi, CPR Asset Management. Vous, est-ce que vous sentez cet appétit des investisseurs pour l'investissement responsable, donner du sens à son placement, à son investissement?
Ah ben les chiffres sont très très clairs. On est aujourd'hui à 235 milliards d'investissements à impact dans le monde. Et tous les ans, il y a une progression de 78% de ces investissements. Donc les chiffres sont très clairs. On a, nous, une demande de nos clients et des clients finaux qui nous disent, voilà, aujourd'hui, l'investissement ESG, l'investissement à impact, c'est devenu quelque chose d'indispensable dans la gamme présentée aux clients. Et puis l'autre point aussi, c'est la volonté de comprendre ce que signifie cet investissement à impact, qu'est-ce qu'il y a derrière cet investissement à impact. Donc c'est une tendance de fond que l'on voit se matérialiser sur tous les segments de clients.
Ça va devenir la norme.
Alors, je ne sais pas si ça va devenir la norme. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs veulent à la fois comprendre dans quoi ils investissent et veulent comprendre la finalité de leur investissement, c'est-à-dire est-ce que mon investissement va avoir un impact positif sur tel ou tel sujet. Et puis, là où, où ça va aller encore plus loin, c'est l'année prochaine, où dans le questionnaire MiFID, on va poser la question au client: quelle est votre connaissance sur l'ESG et quels sont vos objectifs personnels en matière d'ESG. Donc forcément, ça va avoir un effet accélérateur.
Quel point commun entre l'investissement thématique et l'investissement à impact?
Alors, chez CPR Asset Management, on considère qu'il y a des éléments en commun très importants. On a sur la thématique, sur les investissements thématiques, on va aller chercher les grandes tendances. On va investir dans les grands défis de demain. Et puis sur l'impact, on va chercher à avoir un impact positif sur aussi un certain nombre de grands défis, défis alimentaires, défis sociaux, problématiques climatiques. Donc il y a évidemment des points de recouvrement. Le point le plus important pour nous, chez CPR Asset Management, c'est d'avoir la capacité à donner des éléments tangibles, des éléments compréhensibles par à la fois le conseiller en gestion de patrimoine et le client sur ces investissements, des éléments dans un reporting qui ne soit pas quelque chose d'abscon.
Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés sur cette question de l'investissement responsable en tant qu'asset manager?
Le défi, c'est la pédagogie. Il y a d'abord, évidemment, il faut sélectionner, il faut gérer en intégrant ça depuis le début de nos processus de gestion, depuis le début jusqu'à la fin. Il y a un défi de données, de data, d'avoir la bonne donnée qui vous permet de faire cela. Mais après, un des éléments clés, c'est d'expliquer et de faire comprendre ce qu'est cet investissement responsable, comment il fonctionne, et puis quels vont être l'impact, encore une fois, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la gestion de l'eau, sur un certain nombre de sujets que le client va vraiment appréhender.
La transparence, la formation?
Absolument. La transparence, l'information. Moi, je pense que l'autre point aussi, c'est l'innovation. C'est la capacité à aller aussi trouver, analyser et identifier les thématiques qui sont les thématiques de demain, qui sont les thématiques aussi qui vont parler aux clients. Je pense que ça, c'est un point absolument clé.
Les perspectives, vous parliez d'une croissance absolument spectaculaire sur ces dernières années.
Oui, alors les perspectives, elles sont extrêmement positives. Évidemment, quand on parle d'investissement responsable, 80% c'est de l'equity, c'est de l'action. Mais on voit que la croissance, elle est là, elle ne se dément pas. Nous le voyons, on lance dans les jours qui viennent un fonds sur l'hydrogène, où avant d'avoir lancé le fonds, on a énormément de demandes de partenaires, de clients, pour comprendre ce qu'il va y avoir dans ce fonds et pour l'intégrer dans leur gamme. Donc la tendance, elle est là et elle va durer, si je puis dire.
François-Régis Bernico, vous êtes d'accord, les perspectives restent très encourageantes?
Elles sont clairement encourageantes de par le Covid. Il y a énormément d'épargne qui aujourd'hui a été accumulée par nos clients. Donc ça nous oblige justement à proposer des solutions en adéquation avec nos objectifs. Et moi, je suis convaincu que l'ensemble des parties prenantes qui sont aujourd'hui sur le salon, on va faire une très très belle année 2021 et une très très belle année 2022.
On pose souvent cette question, mais est-ce que vous pensez que l'investissement responsable va devenir la norme?
Ça, c'est même plus une question qu'il faut se poser. C'est aujourd'hui une norme. Ceux qui ne vont pas dans cette direction, pour moi, ils vont être exclus du marché. Donc, c'est clairement aujourd'hui, ça revient à ce que je disais en introduction, ça fait partie de notre obligation, de notre raison d'être.
Les choses se sont accélérées avec la crise sanitaire, clairement.
Les choses se sont accélérées fortement ces dernières années. Si je peux vous donner un petit chiffre, par exemple, l'encours qui est investi sur les unités de compte ISR chez Suravenir, il était à 600 millions fin 2019. Il était déjà à 1,6 milliard à fin 2020. Donc on a pris 1 milliard rien qu'en année 2020.
Même croissance chez vous?
Ah oui, c'est même une croissance encore plus importante. Nous, aujourd'hui, chez CPR Asset Management, on a 10 fois plus d'articles de fonds et articles neufs que la moyenne du marché, et c'est une tendance qui s'accélère, on le voit depuis quelques mois, et je pense que, vous le disiez, je pense que la crise Covid a eu aussi un effet accélérateur.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin nous parler d'investissement responsable. Olivier Marié, CPR Asset Management, François-Régis Bernico sur Avenir. On marque une pause dans un instant, on fera un nouveau point sur la séance à la Bourse de Paris. Première séance de hausse depuis plus d'une semaine, le CAC progresse ce matin de 0,28%. Attention, on manque un petit peu de repères puisqu'il n'y aura pas de séance aujourd'hui aux États-Unis. C'est Thanksgiving aux États-Unis. On en parle juste après la pause. Ce sera avec Frédéric Rosier de Mirabeau. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.